Dans avril 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous allons continuer quelques réflexions sur la poésie. Alors, vous voyez bien, on essaie de comprendre ce qui caractérise chacun des arts, c'est-à-dire comprendre comment l'homme, dans son dialogue avec le monde, peut se servir des qualités qu'il expérimente pour les mettre en pleine lumière, pour essayer de créer de nouvelles harmonies, de nouvelles figures qui vont être comme le prolongement de l'homme. Dieu créateur, l'homme, l'œuvre d'art. Dante dit, en disant que l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. Alors, c'est comme ça, je crois, du reste, qu'on doit le regarder dans une vision de sagesse. Ici, ce n'est pas une vision de sagesse, nous essayons de comprendre, au point de vue philosophique, ce que représente chaque art, mais dans une vision de sagesse, il faut comprendre comment Dieu, créateur, a voulu laisser à l'homme sa place, à l'image du Dieu créateur, dominer l'univers. Dominer l'univers, c'est pas uniquement au point de vue de l'utile. On domine l'univers en le transformant au point de vue utile, c'est bien évident, en mettant des robinets, en mettant de l'électricité, en faisant des autoroutes. Ça, c'est dominer l'univers. De toute façon, assez bête. Hein, c'est dominer l'univers. On domine l'univers par l'efficacité. C'est très utile. C'est très efficace. C'est très nécessaire. Et vous voyez bien que c'est dominer l'univers en le réduisant. On réduit. Il suffit de voir les autoroutes quand elles passent dans des pays assez beau, comme on réduit, on ramène, c'est pas du tout petit sentier d'âne qui respecte la nature, hein. C'est tout à fait autre chose. Alors, dominer l'univers, c'est aussi le point de vue de la culture, c'est aussi le point de vue des beaux-arts. Les arts sont une manière de dominer l'univers. Alors, ce serait intéressant, parce que c'est quand même toujours dans cette vision de sagesse que nous devons venir, comprendre cette double manière de dominer l'univers. Le dominer en le ramenant à l'utile. L'outil, c'est l'œuvre d'art qui est de l'utile. Puisque par l'outil, on peut davantage dominer l'univers. Et tout ce qui est de l'ordre de l'outil est de l'ordre de l'utile. Et ce qu'on peut mettre dans le commerce. Ça peut être quelque chose qui a une certaine valeur économique. Mais il y a autre chose dans dominer l'univers, c'est de comprendre la signification profonde de l'univers pour l'homme. L'univers est le milieu normal de l'homme. Et alors, dominer l'univers, c'est permettre à l'univers d'être un milieu plus proche de lui. Plus proche de lui et en même temps un milieu qui permette à l'univers d'être comme un tremplin vers quelque chose d'autre. Et là, on touche tout problème de la culture. C'est le milieu qui nous élève vers quelque chose de plus. L'art a toujours quelque chose de sacré. Et quand on dit que l'art a quelque chose de sacré, on veut dire que justement l'art permet à l'homme un dépassement. C'est par le sacré que l'homme se dépasse. Le sacré, le religieux, le chrétien, le surnaturel. Le sacré et le religieux demeurent des dimensions humaines. Mais ce sont des dimensions humaines qui permettent à l'homme d'aller plus loin, de se dépasser. C'est quelque chose qui donne à l'homme une nouvelle dimension. Cette dimension du sacré et cette dimension du religieux. Ça reste humain dans l'ordre du dépassement de l'homme. L'homme est un être qui est fait pour être dépassé. Et le jour où l'homme ne voit plus ce dépassement, il se détruit. Et donc il faut saisir ce que représente ce dépassement de l'homme, par le point de vue du sacré, par le point de vue du religieux. Et alors, je crois qu'on peut dire que ce dépassement se fait en dominant l'univers, c'est-à-dire en essayant d'exprimer quelque chose que l'univers n'exprime pas par lui-même. D'expliciter, de dévoiler, l'idée de dévoilement va très bien pour l'art, de dévoiler des qualités, des harmonies, des relations qui restent cachées dans la nature et qui doivent être explicitées. La finalité de notre univers, vu dans la perspective de la sagesse, c'est le bien. Dieu, en créant, cherche à communiquer le bien. L'artiste fait passer le bien au beau. Et fait passer le bien à l'utile. Curieux du reste. Parce que c'est vrai, toute chose est bonne du fait même qu'elle est créée par Dieu. La fameuse parole de saint Augustin qu'on reprenait l'autre jour dans saint Thomas. Dans la mesure où les réalités existent, elles sont bonnes. Et c'est très vrai que le regard du Créateur sur notre univers, c'est de faire un univers qui est bon. Alors que l'artiste, son regard sur l'univers, c'est d'expliciter la splendeur de l'univers, la gloire de l'univers, la beauté de l'univers. Donc il va expliciter à partir de la matière, de notre matière sensible, de la matière physique, il va expliciter, dévoiler de nouvelles formes, de nouvelles harmonies, de nouveaux rapports, pour essayer de créer un univers de beauté. C'est cette beauté qu'il essaie d'expliciter. Ce n'est pas du tout en fonction d'une beauté transcendantale qui existerait avant, non. En fonction de ce que lui porte en lui. Et la beauté que l'artiste porte en lui, l'idéal que l'artiste porte en lui, qui est la mesure de son œuvre. La mesure de l'œuvre d'art n'est pas un beau transcendantal. Mais ce qu'il porte en lui. C'est pour ça que ce que l'artiste porte dans son inspiration est source de l'œuvre d'art. Et un grand artiste trouvera toujours que ce qu'il réalise est inférieur à ce qu'il porte en lui. Il ne sera jamais en extase vis-à-vis de son œuvre, les autres, et pas lui. Parce qu'il porte plus. C'est là où vous voyez tout de suite les grands artistes et les petits. Les petits vous montrent, ah, regardez ce chef-d'œuvre, regardez comme c'est beau, personne n'a fait ça. C'était merveilleux. Il est en extase devant l'œuvre qu'il fait. Un grand artiste n'est jamais content. Il veut toujours aller plus loin. Il veut toujours reprendre. Et quelquefois même, il arrivera à détruire ce qu'il a fait. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'il porte. Il porte plus que ce qu'il fait. Et je crois que ça, c'est la marque de l'artiste. Vous voyez, alors c'est là où c'est très important à saisir, si on essaie de comprendre, justement, le créateur porte lui aussi toujours plus que ce qu'il fait. Mais Dieu crée gratuitement. Et parce que Dieu crée gratuitement, Dieu ne peut pas détruire ce qu'il fait. Bien qu'il peut considérer que ce n'est jamais adéquat à sa contemplation. La contemplation de Dieu dépasse infiniment l'œuvre réalisée dans le monde. Mais Dieu n'a pas envie de détruire. Question très belle dans saint Thomas, est-ce que Dieu peut annihiler l'univers qu'il a fait? C'est la question de l'artiste. Est-ce que l'artiste peut annihiler l'œuvre qu'il a faite? Est-ce que Dieu peut annihiler l'œuvre qu'il a faite? Alors saint Thomas répond, en soi, Dieu peut annihiler l'œuvre qu'il a faite. C'est pas contradictoire. Puisque la toute-puissance de Dieu dépasse infiniment ce qu'il a fait. Mais, selon sa sagesse, ce serait contradictoire. Et la grande raison, c'est parce que Dieu crée par amour. C'est que la création est faite par amour, et donc elle est faite dans la gratuité. Quelque chose qui est fait dans la gratuité, on ne détruit pas. C'est-à-dire qu'on peut détruire quelque chose qui est fait sous commande. Non, ça ne correspond pas à la commande. On va le détruire. Oh, c'est ça, c'est pas ça, on le détruit. C'est-à-dire quelque chose qui est fait par la gratuité, on ne le détruit pas. Ça ne vous plaît pas, ça prend l'importance. On le prend, mais on ne le détruit pas. Parce que c'est fait dans la gratuité, c'est fait dans l'amour. Vous voyez ? Et l'œuvre de Dieu ne peut pas être détruite par Dieu. Dieu ne peut pas annuler son œuvre, parce que l'œuvre de Dieu est faite dans la gratuité de l'amour. L'artiste, homme. On ne peut pas dire qu'il crée dans la gratuité. Il crée à partir de son inspiration. Et quand il est inspiré, il doit réaliser. Ça doit sortir, ça doit s'exprimer, ça doit se dire. Parce que l'œuvre qu'il réalise achève ce qu'il porte en lui. Et en même temps, l'œuvre qu'il réalise est relative à ce qu'il porte en lui. Alors, il est obligé de le faire, et en même temps, il n'est jamais content de ce qu'il a fait. C'est très curieux. Et c'est pour ça qu'un artiste peut détruire son œuvre. Ce n'est pas du sadisme. Jésus a dit cette parole de Rouault quand il a brûlé 300 tableaux. Alors il a dit, parce que ça ne lui convenait plus. Il a brûlé 300 tableaux. La même journée. Alors il m'a dit, je vois les historiens dire, Rouault est sadique. Et alors il a ajouté, ils n'ont rien compris. Et on voit très bien ce que ça veut dire. C'est pas du sadisme. C'est parce que ça ne convient plus à ce qu'il porte en lui. Si on avait pu avoir les 300 œuvres de Rouault ici, donner gratuitement, ça serait bien. Parce que je présume que dans ces 300 tableaux, il devait y avoir quand même quelques petites choses admirables, quelques petites choses assez belles, même si ça ne convenait plus. Ça ne convenait plus à telle ou telle période. Mais c'est très mystérieux, ça. Alors, il faut réfléchir à ce fait que l'artiste va achever non pas la création, mais l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu réalise une œuvre qui peut être achevée. Dieu aurait pu réaliser une œuvre qui aurait pu ne pas être achevée. Mais Dieu réalise une œuvre qui peut être achevée. Et il fait cela par amour pour l'homme, pour qu'il y ait des artistes. Parce que Dieu veut qu'il y ait des artistes. Alors, pour qu'il y ait des artistes, Dieu n'a pas créé une œuvre qui soit parfaite. Il a créé une œuvre qui demeure imparfaite. Une œuvre qui attend l'action de l'homme. Une matière, c'est ça la matière. La matière, c'est ce qui attend l'achèvement, ce qui appelle l'achèvement, les gémissements inénarrables de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par rapport à l'artiste, mais c'est par rapport à la résurrection. C'est les gémissements inénarrables de l'Esprit Saint. Et c'est très beau, parce que ça fait comprendre qu'il y a dans la nature des gémissements aussi par rapport à l'artiste. Si j'ai une vision chrétienne de l'art, je peux dire que toute œuvre artistique est en vue de la résurrection des corps. C'est une des choses, du reste, très très belle à voir, sans point de vue proprement chrétien. Toute œuvre artistique est en vue de la résurrection des corps, parce que c'est la matière qui gémit, qui attend, qui est imparfaite, et qui demande un achèvement, qui demande quelque chose qui aille plus loin. Alors, c'est là où l'homme artiste coopère non pas à la création, comme il se dit trop souvent, alors ça c'est pas juste, mais il coopère à l'œuvre du Créateur, en l'achevant, en lui donnant une splendeur que cette œuvre n'a pas par elle-même. Alors ce qu'il faut comprendre, vous voyez, et ce qui serait intéressant, et ça c'est intéressant à faire comme jugement de sagesse, je ne l'ai pas fait dans le livre sur l'activité de l'art, mais nous pouvons très bien le faire. Essayez de comprendre comment l'univers va posséder toutes les possibilités d'épanouissement. Et vous avez là tous les arts divers qui sont pour ces possibilités d'épanouissement. Alors posez-vous la question. Quand il s'agit de la sculpture, c'est facile. Quand il s'agit de la peinture, c'est facile. L'univers a pris la lumière. La lumière est en attente d'une autre lumière, qui sera la lumière de l'artiste dans la peinture. Je peux dire ça. La lumière est en attente. Parce que c'est vrai que tout le monde, tout l'univers a des qualités sensibles, et des sensibles propres, qui sont repris dans l'art pictural, selon un autre ordre. Alors, faites ça pour tous les arts, et recherchez ce que l'univers est en attente à l'égard de chacun de ces arts. Donc, tous les arts principaux. L'univers est en attente. Et l'univers est en attente vis-à-vis de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est l'artiste divin, l'Esprit Saint. C'est le corps de l'homme. Le corps humain qui sera repris dans un corps glorifié. La glorification des corps, c'est l'art de l'Esprit Saint qui est un art d'amour. C'est pas l'univers, c'est l'univers par le corps de l'homme. Et l'artiste, lui, c'est l'univers. C'est pas le corps de l'homme, c'est aussi le corps de l'homme, mais c'est l'univers. C'est la lumière, le visage. Le visage représente quelque chose de très important pour les pictures. La lumière des yeux. C'est une autre lumière qui est reprise par le peintre. Alors vous voyez, quand il s'agit du poète, c'est pour arriver au poète que je dis ça. quand il s'agit de poète. Le poète se sert comme métier langage. Le langage, il est lié à l'univers, il est lié à l'homme. Le langage est lui-même une œuvre d'art. C'est vrai. Mais une œuvre d'art qui est premièrement utilitaire. Comment le langage a-t-il été inventé ? La parole. La parole. Il a été inventé pour la communication entre les hommes. Il a été inventé pour permettre que la communication entre les hommes se fasse plus facilement. Il y a le geste et la parole. Alors, la parole, l'homme s'en sert dans l'utilité. Et cette parole porte en elle une potentialité, une attente vers la poésie. Vous voyez la manière dont on peut comprendre comment le langage, l'homme dans l'univers, l'homme avec les autres hommes, a besoin du langage. Et c'est lié à l'univers, le langage. Puisqu'il y a le son, il y a le bruit, dont la musique se sert, mais qui est présente nécessairement dans le point de vue dans le point de vue du langage, la communication. Alors, cette communication dont on se sert pour un but utilitaire, elle va être reprise par le poète dans un but qui n'est plus utilitaire. Et la matière dont il se sert, c'est justement la parole. Mais dans un but, alors, de beauté. C'est ce qu'on peut dire. Si l'univers est créé par Dieu, dans un but de beauté, communication de la beauté de Dieu, avant tout ça. Il y a un passage que l'homme doit faire pour faire un nouvel univers qui attend la glorification des corps, qui est l'univers de beauté. Et la glorification des corps, c'est une reprise de tout en vue d'un autre. Vous voyez, pour essayer de comprendre, c'est une vision de sagesse, la place de ce que représente le point de vue de l'art. L'art, c'est l'homme dans cet univers, dans ce milieu qui est l'univers. L'homme va dominer cet univers. Il le domine de deux manières, en l'utilisant. Les carrières de pierre, les transformations de l'art artificiel, toutes les transformations que l'homme peut faire. Et puis, en même temps, l'homme se sert de l'univers pour faire un univers de beauté. Et là, nous avons la culture. La culture repose et se fonde sur l'art. Dès que l'art n'est plus quelque chose de dominant, on n'a plus qu'un univers qui se matérialise. Alors, c'est l'univers utilitaire. Alors, ce n'est plus une culture. Uniquement le point de vue utilitaire. Je ne crois pas qu'il y ait une culture économique. C'est une culture utilitaire et matérielle. Alors ça matérialise l'homme. Et alors l'homme est moins bien dans l'univers que si il était dans un univers où l'homme n'était pas passé. C'est ce qu'on ressent. On quitte les villes. Pourquoi ? Pour aller à la campagne. Ça prouve que le milieu de la ville est moins porteur que la campagne. Alors que normalement, le milieu que l'homme a fait doit respecter la nature et permettre à l'homme d'être porté vers quelque chose de plus. Vous voyez, j'ai essayé de comprendre. Hein. Et c'est ce problème-là qu'il faut saisir quand on regarde le point de vue de l'art. C'est quand même ça qui est intéressant à saisir sous-jacent. Vous avez donc l'homme. L'homme en raison de son devenir. En raison du devenir.
l'arbre a besoin d'un milieu. Le milieu naturel, c'est l'hiver. Ce milieu naturel risque d'être abîmé par l'homme, d'être exploité par l'homme. Et alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui est inférieur à ce milieu naturel, on aura un milieu uniquement de commerce, un milieu économique, un milieu qui matérialise tout. Ça matérialise tout par le point de vue de l'utilité. L'utilité ne forme pas un milieu de culture. C'est un milieu utile et c'est tout. Mais l'utilité n'élève pas l'homme. C'est pas avoir des choux qui élèvent l'homme, n'est-ce pas? C'est pas avoir des veaux gras qui élèvent l'homme. C'est de l'ordre utilitaire. Et de l'ordre utilitaire, c'est au contraire quelque chose que l'homme doit porter, mais qui risque d'abaisser l'homme. Et la matérialisation d'une culture provient toujours du primat utilitaire. Quand on parle d'une crise de civilisation, c'est le primat utilitaire. C'est l'utilitaire qui l'emporte et qui, à ce moment-là, fait tout baisser. D'où le besoin des anges de revenir à un milieu naturel qui est plus. Mais le milieu naturel, c'est le milieu sauvage, c'est pas la culture. La vraie culture, ce serait le milieu que l'homme crée avec l'art. Et alors ce milieu-là est un milieu d'attente vis-à-vis de la résurrection des corps. Donc, vous distinguez le milieu naturel dans lequel l'homme est naturellement plongé en raison de son devenir. Tout être qui est en devenir a besoin d'un milieu vital. Ce milieu vital peut être abîmé, exploité. L'exploitation n'est pas de l'ordre artistique. L'exploitation, c'est de l'ordre utilitaire. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'il fallait toujours être très attentif à la distinction entre l'exploitation et la coopération. C'est une distinction très très importante à faire. Eh bien, quand vous commencez à exploiter le milieu dans lequel vous êtes, le milieu naturel, que vous l'exploitez parce que vous cherchez en premier lieu l'utilitaire. De la manière la plus immédiate qui soit. Après moi, le déluge. Ça m'est bien clair, j'abîme tout sans aucune espèce d'importance. Quand vous cultivez, vous pensez à ceux qui viendront après. Et c'est ce qu'on fait, on cultive. On pense à ceux qui viendront après. On met de l'herbe pour ceux qui viendront après. Parce qu'on a besoin de ça. Sinon, d'avoir devant soi toujours des détritus effrayants. N'est-ce pas? Alors on dit non, on ne peut pas. Il faut transformer pour un milieu. Un milieu qui soit humain. Alors quand le milieu humain n'est plus que le milieu de l'exploitation, on est en phase utilitaire. Et l'utilitaire alourdit, fait que l'homme se matérialise. Et il est matérialisé par son milieu. Alors que lorsqu'il s'agit de créer un milieu qui soit la culture, vous permettez à l'homme de s'élever, vous coopérez avec la nature. Et coopérer avec la nature fait un milieu humain. Cultiver un champ, pas l'exploiter, cultiver un champ, c'est un milieu humain, c'est un petit jardin. Cultiver un champ, c'est un petit jardin, c'est un milieu humain. Ça, on oublie. Exploiter, c'est très important d'y réfléchir à ça, vous voyez, parce qu'on réfléchit sur le point de vue de l'art, mais c'est très important de bien saisir ce que représente la culture. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu qui nous porte? Alors je crois que le milieu qui nous porte, vous voyez, c'est ça qui serait intéressant, un milieu qui nous porte et qui nous en oublie. Il y a des milieux qui nous font crever. littéralement, quand vous êtes devant un milieu qui exploite tout. Alors, vous serez un jour ou l'autre exploité. Alors, si on essaie de comprendre un milieu qui soit toujours à base de lumière, donc toujours au milieu naturel, mais qui va venir, qui va s'ennuyer. Il s'ennuie par l'art artisanal. Il s'ennuie par l'art tout court. C'est pour ça que cultiver un jardin, qui est de l'art artisanat, fait partie de la culture. Élever des animaux, vraiment, n'élevant pas l'exploitation. Exploiter n'est plus de la culture. Tandis qu'opérer avec la nature et permettre à la nature d'être plus elle-même, c'est permettre un milieu qui va ennoblir l'homme. Alors, c'est le milieu fruit de l'art artisanat et fruit de l'art. Alors, vous voyez la chose terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que le milieu artisanal disparaît. Il n'y a plus que le milieu utilitaire. Or, est-ce que l'art tout court n'a-t-il pas besoin d'un milieu artisanal pour pouvoir s'épanouir? Il faut beaucoup de petits prophètes pour des grands prophètes. Le milieu des petits prophètes permet les grands prophètes. L'art artisanal permet un milieu qualitatif d'où va apparaître l'art. Est-ce qu'un milieu matérialiste et uniquement utilitaire permet-il encore l'apparition de l'art? Il faut réfléchir à ça. Parce que ça, c'est très important. Alors, idée naturelle, milieu abîmé par l'homme en raison de l'exploitation. Le milieu ennobli par l'homme qui donne la culture. Une culture, c'est le lieu que je serai dans le monde, le lieu dans lequel je me trouve et qui me permet de m'ennoblir. C'est-à-dire, ça, des considérations importantes à faire là-dessus à propos de l'art. Parce que l'exploitation, c'est pas l'art artisanal. Hein. L'exploitation tue, parce que ça ramène à quelque chose qui est inférieur à l'homme. L'art artisanal ennoblit, tout en cherchant l'utilité. L'artisan cherche quelque chose d'utile, mais il cherche qualité. L'utile est enveloppé de qualité, tandis qu'ici l'utile n'est plus enveloppé de qualité. C'est la différence avec l'exploitation et l'art artisanal. Mais l'art artisanal, au point de vue utile, on transforme le monde pour l'homme, et le point de vue de l'art tout court, alors on est en face de qualités qui sont plus utiles, qui sont agréables à voir. Le beau, c'est ce qui est agréable à voir. Quoi de plat disent, ce qui plaît à la vue. C'est de l'ordre de quelque chose qui n'est plus de l'ordre utilitaire, qui est au-dessus. Et c'est proprement cet art qui va naître de ce premier milieu artisanal, de ce premier de la qualité. Mais si vous supprimez cette coopération avec la nature et donc vous supprimez l'artisanat, vous êtes en face de l'exploitation et vous êtes en face donc de l'utilitaire. Réfléchissez à ça. Et alors, réfléchissez à ce fait qui serait très intéressant à voir. Je ne crois pas que ça a été fait. De voir comment la diversité des arts menait en présence des attentes de l'univers par rapport à l'homme. Vous voyez, chaque fois, je me mets au point de vue pictural et au point de vue peinture, faites-le pour tout le reste. Ce sont les attentes. Les attentes, la nature attend l'homme. Et l'homme coopère avec la nature pour l'art artisanat et pour les beaux-arts. Alors, on verra, si vous voulez, après avoir vu cette diversité des beaux-arts, on va essayer de voir le soubassement artisanal. Parce que si ce que je vous dis là est vrai, on doit essayer de comprendre. C'est-à-dire que si l'art tout court s'épanouit dans un milieu artisanal qui favorise l'art, qui favorise l'éclosion de l'art, il doit y avoir nécessairement à l'intérieur, il doit nécessairement y avoir une correspondance entre la diversité des arts et l'art artisanal. Et l'art artisanal, lui, à l'univers. Et les attentes de l'univers à l'égard de l'art artisanal et à l'égard de l'art tout court. Pour que nous comprenions ces différents milieux. Alors vous auriez des zones de cette manière-là, si vous vous y faites, vous auriez le milieu naturel, le milieu artisanal, puis le milieu de l'art. Et la destruction du milieu naturel par un milieu utilitaire et purement commercial, en dessous du niveau de la mer. Et l'homme se dégrade quand il est plongé dans ce milieu-là. Et il doit le savoir. L'homme célèbre, par exemple, l'homme célèbre l'art. Il faut essayer de saisir ces différents aspects. Alors, je continue pour la poésie, quelques considérations. Nous avions vu quelques attitudes différentes en vous rappelant justement la manière dont les poètes pouvaient parler de la poésie. Et c'est intéressant du reste de regarder ça, c'est toujours intéressant de regarder ça. Mallarmé porte ce jugement sur les poésies parisiennes, les sentiments de la vie parisienne pris au sérieux et vus à travers le prisme de la poésie, un idéal qui n'existe point par son propre rêve, et soit le lyrisme de la réalité, telle est l'intention des poésies parisiennes. Donc on est en face de ça. Et alors quelqu'un qui a beaucoup étudié Mallarmé, Georges Poulet, il dit ceci, il suffit d'en retourner les termes pour obtenir une parfaite définition de la poésie de Mallarmé. Elle veut exprimer un idéal qui existe par son propre rêve et qui ne soit pas le lyrisme de la réalité. Donc, on voit très bien que la poésie, c'est quelque chose qui va nous exprimer quelque chose de plus. Ce rêve du réel. Et exprimer quelque chose qui est un achèvement. Et je crois qu'on peut regarder toute une série de définitions du reste que les poètes eux-mêmes. Intéressant de regarder la manière dont les poètes définissent la poésie. C'est très difficile de définir la poésie. Ça ne se définit pas, mais ça peut s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Qu'est-ce que c'est que la poésie pure? Et je crois qu'on peut dire ceci. La poésie n'a rien à voir avec les définitions, même de l'esthétique, disait Max-Jean Jacob. Il faut vivre les choses et non les définir. Vivons et chantons, c'est là la poésie. C'est juste, la définition est logique. Elle n'est pas poétique. Donc, on ne peut pas donner de définition de la poésie. On ne peut pas donner une définition de la poésie à l'état pur. On peut cependant faire des approches. C'est d'écrire, c'est le propre de l'art. L'art, on décrit. La réalité, on l'analyse. On n'analyse pas l'art. On détruit l'art quand on l'analyse. Ça se décrit, on s'approche. La poésie, c'est l'art d'exprimer, de dire, de chanter, en se servant du langage. En se servant des émotions humaines, les plus humaines. On se sert du langage et des émotions humaines. Un sentiment. Celui qui n'a aucun sentiment ne sera jamais poète. Sentiment, en prenant sentiment, les états affectifs. Il y a un halo affectif en nous. Le poète se sert du langage commun, mais il le transfigure. Alors, ils sont ça. Le langage commun, c'est le langage utilitaire. On se sert du langage pour transmettre ce qu'on pense. Le poète se sert du langage en lui donnant une valeur absolue. Ce n'est plus pour l'utilité. C'est que le langage va porter en lui-même une signification qui lui est propre, symbolique. Le langage habituel renvoie à une réalité extérieure. Le langage du poète ne renvoie à rien. Parce qu'il a une valeur symbolique. Alors, un langage de poète qui renvoie à autre chose, c'est exactement comme un tableau qui est une photographie. Les peintres du dimanche, on voit très bien. Ils ont peint leur petite maison. Et alors tous les gens disent, ah, merveilleux, on la voit la maison. Ça, c'est la mort de l'art. Hein. Quand on voit la maison derrière, c'est fini. Parce que c'est le langage utilitaire, n'est-ce pas ? Vous avez une petite photo, carte d'identité. Carte d'identité, ce n'est pas précisément artistique. C'est pour le douanier. Hein. C'est assez particulier. Donc c'est de l'ordre utilitaire. Et alors quand, de fait, le langage du poète est un langage qui exprime autre chose, c'est plus poétique. C'est une définition. La définition, elle vous renvoie. Vous renvoie autre chose. Donc, il y a une transfiguration du langage, ou peut-être plus justement, en le retrouvant, selon l'expression de Valérie, à l'état naissant. Et c'est ce que reprendra Claudel, Valérie. Redécouvrir le langage à l'état naissant. Je trouve ça assez joli parce que c'est au fond un peu ce que le philosophe fait au point de vue de sa philosophie. Découvrir la signification des réalités à l'état naissant. Eh bien, le poète, c'est ça. C'est découvrir le langage à l'état naissant. Donc, le langage dans sa relation vis-à-vis de l'univers et vis-à-vis de l'homme. Et vis-à-vis des deux. Et c'est pour ça que quand la poésie devient trop subjective, elle est uniquement relative de l'homme et des sentiments de l'homme. Et là, ça devient inintelligible. Tandis que la vraie poésie est toujours en relation avec l'univers, et en relation avec l'homme. C'est cette double relation du langage. Saisir le langage à l'état naissant, à l'état natif, c'est ça, je crois, le propre du poète. Il saisit les choses à leur naissance. Et comme le langage uni et lié à l'univers, est lié au sentiment de l'homme, au sentiment affectif de l'homme, un langage poétique est un langage à l'état naissant. Je crois que c'est ça le propre. Je crois que c'est juste de dire ça. Les mots qu'il utilise sont les mots de tous les jours, c'est bien évident. Il n'en inventera pas d'autres. Mais en redécouvrant leur fraîcheur première, il les rend porteurs d'une expression symbolique qui nous saisit. Oui, il supprime tout l'aspect utilitaire du langage, qui fait que le langage est usé. Le langage de tous les jours, il est usé. Il faut employer tant de mots, pas grand-chose, et c'est ce qu'on a fait par rapport à saint Thomas, et c'est là où on revient que saint Thomas, quand il fait son œuvre, Théologique n'est pas un poète, on a remarqué que le langage des sentences était beaucoup plus riche, et que le langage de la somme était la moitié moins riche. Et ça, c'est anti-poétique. Mais c'est peut-être la purification du point de vue de la théologie. Ça, c'est très significatif. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'il ne cherche plus, l'état naissant, l'aspect symbolique, il cherche uniquement la signification profonde.
Seigneur, vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles.
Amen.